Chapitre 11. Le don suprême de Dieu à l'homme. Le don suprême de Dieu à l'humanité, c'est l'intelligence ou faculté de comprendre. C'est par cette faculté que l'homme acquiert la connaissance des différents règnes créés et des divers degrés d'existence, ainsi que d'une grande partie de ce qui est invisible. Grâce à ce don, il est lui-même la synthèse des règnes inférieurs. Il peut se mettre en rapport avec ses règnes et par ses connaissances scientifiques parvenir souvent à prévoir l'avenir. En vérité, l'intelligence est la plus précieuse des facultés que la bonté divine ait accordée à l'homme. Seul parmi les êtres créés, il possède ce merveilleux pouvoir. Tous les règnes précédant celui de l'homme sont liés par les lois rigoureuses de la nature. L'énorme soleil, la multitude des étoiles, les océans et les mers, les montagnes, les rivières, les arbres et les animaux, grands ou petits, sont tous incapables de se soustraire aux lois de la nature. L'homme seul détient la liberté et, par son intelligence et sa compréhension, s'est montré capable de contrôler quelques-unes de ces lois naturelles et de les adapter à ses propres besoins. Par le pouvoir de son intelligence, il a découvert des moyens qui lui permettent non seulement de traverser de vastes continents dans des trains rapides et sur des navires, de parcourir des océans immenses, mais encore, comme les poissons, de voyager en submersible sous l'eau et, à l'instar des oiseaux, de voler dans les airs. L'homme a réussi à employer l'électricité de plusieurs manières, pour s'éclairer, pour se mouvoir et pour envoyer des messages d'un bout à l'autre de la Terre. Par des moyens électriques, il peut même entendre la voix humaine à des lieux et des lieux de distance. Par ce don d'intelligence et de compréhension, il a également été capable d'utiliser les rayons du soleil pour fixer l'image des êtres et des choses, et même pour saisir la forme des corps célestes éloignés. Nous voyons ainsi comment l'homme a su, de tant de manières, plier les lois de la nature à sa volonté. Qu'il est triste de constater comment il a usé de ce don divin pour créer des instruments de guerre, pour enfreindre le commandement de Dieu « Tu ne tueras pas » et pour défier l'ordre du Christ « Aimez-vous les uns les autres ». Dieu a gratifié l'homme de ce pouvoir afin qu'il puisse s'en servir pour le progrès de la civilisation, pour le bien de l'humanité et pour développer l'amour, la concorde et la paix. Mais l'homme préfère se servir de ce don pour détruire au lieu de construire, pour commettre des injustices, pour opprimer, pour semer la haine, la discorde, la dévastation, et pour exterminer ses semblables que le Christ lui avait commandé d'aimer comme lui-même. J'espère que vous vous servirez de votre intelligence pour promouvoir l'unité et la tranquillité dans l'humanité, pour répandre la culture et la civilisation, susciter l'amour tout autour de vous et amener la paix universelle. Étudiez les sciences pour acquérir de plus en plus de connaissances. Sans aucun doute, on peut apprendre jusqu'à la fin de sa vie. Que votre savoir soit toujours au service des autres, afin que la guerre disparaisse de la surface de cette terre si belle et que s'établisse un état de paix et de concorde. Faites tous vos efforts pour que votre idéal élevé puisse se réaliser dans le royaume de Dieu, sur la terre, comme il se réalisera dans le ciel. Chapitre 12. Les nuages qui voilent le soleil de vérité. Il fait beau aujourd'hui, l'air est pur, le soleil brille, aucun nuage, aucune brume ne vient ternir son éclat. Ses rayons ardents pénètrent la cité de toutes parts. Puisse le soleil de vérité illuminer ainsi l'esprit des hommes. Le Christ a dit « Ils verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel ». Baha'u'llah a dit « Quand le Christ vint pour la première fois, il descendit sur les nuages ». Voir Matthieu 14, 30. Le Christ a dit qu'il était venu du ciel, qu'il était né de Dieu, alors qu'il venait du sein de sa mère Marie. Mais quand il déclara qu'il était descendu du ciel, il est clair qu'il ne parlait pas du firmament, mais qu'il faisait allusion au ciel du royaume de Dieu, et c'est de celui-ci qu'il descendit sur les nuées. Comme les nuages sont des obstacles au rayonnement du soleil, de même les brumes du monde ont caché aux yeux des hommes la splendeur de la divinité du Christ. Les hommes ont dit « Il vient de Nazareth, il est le fils de Marie et nous le connaissons, lui et ses frères. Que veut-il dire en affirmant qu'il est venu de Dieu ?» Voir Jean 6, 42. Le corps du Christ fut conçu par Marie de Nazareth, mais son esprit venait de Dieu. Ses capacités humaines étaient limitées, mais la puissance de son esprit était infinie et incommensurable. Les hommes demandaient « Pourquoi dit-il qu'il vient de Dieu ?» S'ils avaient compris ce qu'était la réalité du Christ, ils auraient su que son corps était un nuage cachant sa divinité. Le monde ne vit que sa forme humaine et se demanda dès lors comment il pouvait descendre du ciel. Baha'u'llah a dit « Ainsi que les nuages cachent le soleil et le ciel à nos regards, de même l'élément humain du Christ a caché la réalité de sa nature divine aux yeux des hommes. » J'espère que vous vous tournerez vers le soleil de vérité avec un regard lucide, sans voir les choses de la terre, afin que vos cœurs ne soient pas attirés par les plaisirs vains et éphémères du monde. Que ce soleil vous communique une partie de sa force. Alors les nuages des préjugés ne voileront pas son éclat à vos yeux, et pour vous, ce sera un soleil sans nuages. Respirez l'air de pureté. Puissiez-vous, chacun et tous, profiter des divines bontés du royaume céleste. Que pour vous le monde ne soit pas un obstacle vous cachant la vérité, comme le corps humain du Christ a dissimulé sa divinité au peuple de son époque. Puisse l'Esprit-Saint vous donner une vision claire, afin que vos cœurs soient illuminés et capables de reconnaître le soleil de vérité, brillant à travers tous les nuages physiques, et dont la splendeur inonde l'univers. Ne laissez pas les questions d'ordre matériel obscurcir la lumière céleste de l'Esprit, afin que par la bonté divine, vous puissiez entrer, avec les enfants de Dieu, dans son royaume éternel. Telle est ma prière pour vous tous. Chapitre 13. Les préjugés religieux. La base de l'enseignement de Baha'u'llah est l'unité du genre humain, et son plus grand désir fut de voir vivre l'amour et la bonne volonté dans les cœurs des hommes. De même qu'il exhorta les peuples à mettre fin aux luttes et aux discordes, je désire moi aussi vous expliquer la raison principale du malaise qui existe chez les nations. La cause primordiale est la présentation erronée de la religion par les chefs et les éducateurs religieux. Ils font croire à leurs adeptes que leur propre forme de religion est la seule qui plaise à Dieu, que les fidèles des autres croyances sont condamnés par le Père, qui est tout amour, et qu'ils sont privés de sa clémence et de sa grâce. Il en résulte que la réprobation, le mépris, la discorde et la haine s'élèvent entre les peuples. Si ces préjugés religieux pouvaient disparaître, la paix et la concorde régneraient bien vite entre les nations. Un jour, je me trouvais à Tibériade, où les Juifs possèdent une synagogue. J'habitais dans une maison située juste en face de cet édifice. Là, je vis et j'entendis un rabbin qui s'adressait en ces termes à son auditoire juif. « Ô Juifs, vous êtes en vérité le peuple de Dieu. Toute autre race et toute autre religion viennent du diable. Dieu a fait de vous les descendants d'Abraham, et sur vous, il a répandu ses bénédictions. » Il vous a envoyé Moïse, Jacob et Joseph, et tant d'autres grands prophètes. Chacun de ces prophètes est de votre race. C'est pour vous que Dieu a brisé la puissance du Pharaon et qu'il a refoulé les eaux de la mer Rouge. C'est encore pour vous que Dieu a fait pleuvoir la manne pour vous nourrir et qu'il a fait surgir l'eau du rocher pour apaiser votre soif. Vous êtes vraiment le peuple élu de Dieu. Vous êtes au-dessus de toutes les races de la terre. C'est pourquoi toutes les autres races, il les abhorre et les condamne. En vérité, vous gouvernerez et subjuguerez le monde, et tous les hommes deviendront vos esclaves. Ne vous dégradez pas en fréquentant ceux qui ne sont pas de votre religion, et ne faites pas de tels hommes vos amis. » Quand le rabbin eut terminé son éloquent discours, ses auditeurs furent ravis et satisfaits. Il est impossible de vous décrire leur bonheur. « Hélas ! Ce sont ces êtres ainsi égarés qui sont la cause des divisions et des haines sur la terre. Aujourd'hui, il existe encore des millions de gens qui adorent les idoles. Et les grandes religions du monde sont en lutte les unes avec les autres. Il y a 1300 ans que les chrétiens et les musulmans sont en désaccord. Alors qu'avec un tout petit effort, leurs différends et leurs discordes pourraient être surmontés. La paix et l'harmonie pourraient régner entre eux et le monde vivrait tranquillement. Nous lisons dans le Coran que Muhammad parlait ainsi à ses disciples. « Pourquoi ne croyez-vous pas à Jésus-Christ et aux évangiles ? Pourquoi ne voulez-vous pas accepter Moïse et les prophètes ? Car la Bible est certainement le livre de Dieu. » En vérité, Moïse était un prophète sublime, et Jésus était rempli du Saint-Esprit. Il vint dans le monde par le pouvoir de Dieu. Il naquit du Saint-Esprit et de la Sainte Vierge Marie. Marie, sa mère, était une sainte venue du ciel. Elle passait ses jours en prière dans le temple, et la nourriture lui était envoyée d'en haut. Son père, Zacharie, vint à elle et lui demanda d'où venait cette nourriture. Marie répondit « Du ciel ». Dieu a sûrement fait de Marie une femme honorée entre toutes. Tel est ce que Muhammad enseignait à son peuple au sujet de Jésus et de Moïse. Il leur reprochait leur manque de foi en ces grands éducateurs et leur donnait des leçons de vérité et de tolérance. Dieu envoya Muhammad pour agir parmi ces peuplades aussi sauvages et incultes que des bêtes féroces. Elles étaient tout à fait dépourvues d'intelligence, de tout sentiment d'amour, de sympathie et de pitié. Les femmes étaient si abaissées et méprisées qu'un homme avait le droit d'enterrer vivante sa propre fille. De plus, il pouvait avoir autant de femmes qu'il voulait pour en faire ses esclaves. C'est à ce peuple à demi bestial que Muhammad fut envoyé avec son message divin. Il lui apprit à ne pas adorer des idoles, mais à révérer le Christ, Moïse et les prophètes. Sous son influence, ce peuple devint éclairé et civilisé, et il sortit de l'état de dégradation où il se trouvait. N'était-ce pas là une belle entreprise, digne de louange, de respect et d'amour? Voyez l'évangile du Christ et admirez-en la splendeur. Cependant, aujourd'hui encore, les hommes n'en saisissent pas la beauté inestimable et interprètent mal ses paroles de sagesse. Le Christ a interdit la guerre. Quand son disciple Pierre, voulant défendre son Seigneur, coupa l'oreille du serviteur du grand prêtre, le Christ lui dit « Remets ton épée dans le fourreau » voir Jean 18, 11. Cependant, en dépit du commandement formel du Seigneur qu'ils font profession de servir, les hommes continuent à se disputer, à se faire la guerre, à s'entretuer, oubliant complètement ses conseils et ses enseignements. N'attribuez donc pas aux maîtres et aux prophètes les mauvaises actions de leurs disciples. Si les prêtres, les éducateurs et les peuples mènent une vie en contradiction avec la religion qu'ils professent, est-ce la faute du Christ ou des autres éducateurs? On enseigna au peuple de l'islam à croire que Jésus venait de Dieu, qu'il était né de l'Esprit et qu'il devait être glorifié entre tous les hommes. Moïse fut un prophète de Dieu, et en son temps, il révéla le livre de Dieu pour le peuple auquel il s'adressait. Muhammad reconnut la sublime élévation du Christ et la grandeur de Moïse et des prophètes. Si le monde entier voulait seulement reconnaître la grandeur de Muhammad et de tous les éducateurs spirituels, la lutte et la discorde disparaîtraient bientôt de la surface de la terre et le royaume de Dieu s'établirait parmi les hommes. Les musulmans qui rendent gloire au Christ n'en sont pas humiliés pour cela. Le Christ fut le prophète des chrétiens. Moïse fut celui des juifs. Pourquoi les disciples de chaque prophète ne pourraient-ils reconnaître et honorer aussi les autres? Si seulement les hommes pouvaient apprendre la leçon de tolérance mutuelle, de compréhension et d'amour fraternel, l'unité du monde serait bientôt un fait accompli. Baha'u'llah a passé sa vie à donner cette leçon d'amour et d'unité. Écartons donc loin de nous tout préjugé, toute intolérance, et de tout notre cœur et de toute notre âme, efforçons-nous d'amener l'entente et l'unité entre chrétiens et musulmans. Chapitre 14. Les bienfaits de Dieu envers les hommes. Dieu seul est tout-puissant et dirige toutes choses. Pourquoi donc envoie-t-il des épreuves à ses serviteurs ? Les épreuves de l'homme sont de deux sortes. Elles sont les conséquences de ses actes. Si un homme mange trop, sa digestion est mauvaise. S'il prend du poison, il tombe malade ou il meurt. Si quelqu'un joue de l'argent, il finira par perdre. S'il boit trop, il perdra l'équilibre. De toutes ces souffrances, l'homme lui-même est responsable. Il est donc clair que certaines infortunes résultent de nos propres actions. D'autres souffrances atteignent les fidèles de Dieu. Voyez les peines immenses endurées par le Christ et par ses apôtres. Ceux qui souffrent le plus atteignent à la plus haute perfection. Les hommes qui affirment vouloir souffrir pour l'amour du Christ doivent faire la preuve de leur sincérité. Ceux qui proclament leur aspiration au grand sacrifice ne peuvent prouver leur bonne foi que par des actes. Job démontra la constance de son amour à Dieu en restant fidèle aussi bien dans les grandes adversités que dans les périodes prospères de sa vie. Les apôtres du Christ, qui supportèrent avec fermeté toutes leurs épreuves et leurs souffrances, n'ont-ils pas démontré leur fidélité? Leur endurance n'est-elle pas la meilleure des preuves? Ces douleurs appartiennent maintenant au passé. La vie de Caïphe fut heureuse et confortable, tandis que celle de Pierre fut semée d'épreuves et de chagrins. Laquelle des deux est la plus enviable? Sans aucun doute, nous choisirions la condition actuelle de Pierre, car il possède l'immortalité, tandis que Caïphe est voué à la honte éternelle. Les tribulations de Pierre ont témoigné de sa fidélité. Les épreuves sont des bienfaits de Dieu pour lesquels nous devrions lui être reconnaissants. Les chagrins et les afflictions ne nous atteignent pas par hasard. Ils nous sont envoyés par la divine miséricorde pour notre propre perfectionnement. Quand il est heureux, il se peut que l'homme oublie son Dieu. Mais quand vient le chagrin et que les afflictions l'accablent, il se souvient alors de son Père qui est au ciel et qui peut le délivrer de ses humiliations. Les hommes qui ne souffrent pas n'atteignent pas à la perfection. La plante la plus émondée par le jardinier est celle qui, l'été venu, donnera les plus belles fleurs et les fruits les plus abondants. Le laboureur fend la terre avec sa charrue, et de cette terre surgit une riche et abondante moisson. Plus un homme est châtié, plus nombreux seront les vertus spirituelles qu'il manifestera. Un soldat ne deviendra un bon général qu'après avoir pris part aux plus furieuses batailles et après avoir reçu les plus graves blessures. La prière des prophètes de Dieu a toujours été et reste encore celle-ci. Ô mon Dieu, j'aspire à donner ma vie dans le chemin qui conduit vers toi. Je désire répandre mon sang pour toi et accomplir le suprême sacrifice. Chapitre 15. Beauté et harmonie dans la diversité. Le Créateur de tout, c'est Dieu, l'unique. De ce même Dieu, toute créature a reçu l'existence. Il est l'unique but vers lequel aspire toute chose dans la nature. Cette conception est implicite dans les paroles du Christ, lorsqu'il dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin ». L'homme est le résumé de la création, et l'homme parfait est l'expression de la pensée accomplie du Créateur, le Verbe de Dieu. Considérez le monde des créatures. Quelle diversité et quelle variété dans leurs espèces, bien qu'elles aient une même origine. Toutes les différences visibles sont celles des formes extérieures et des couleurs. Cette diversité dans les types se retrouve partout dans la nature. Regardez un beau jardin rempli de fleurs, d'arbres et d'arbustes. Chaque fleur a son charme différent, sa beauté particulière, une agréable couleur et un délicieux parfum qui lui sont propres. Il en est de même des arbres si variés dans leur taille, leur croissance, leur feuillage et les divers fruits qu'ils donnent. Cependant, toutes ces fleurs, ces arbustes et ces arbres proviennent de la même terre. Le même soleil les inonde de ses rayons et les mêmes nuages leur apportent la pluie. Ainsi en est-il pour l'humanité. Composée de nombreuses races et de peuples de différentes couleurs, blanc, noir, jaune, brun et rouge, tous viennent du même Dieu et tous sont ses serviteurs. Cette diversité parmi les enfants des hommes n'a malheureusement pas le même effet que dans le règne végétal, dans lequel les conditions témoignent de plus d'harmonie. Chez les hommes, il existe une hétérogénéité qui suscite l'animosité, et c'est ce qui provoque les haines et les guerres entre les diverses nations du monde. Des différences dues simplement à la race les amènent à se massacrer les uns les autres. Hélas, faut-il qu'il en soit encore ainsi aujourd'hui? Quant à nous, considérons plutôt la beauté dans la diversité et l'harmonie, et tirons une leçon du monde végétal. Si vous regardez un jardin dont toutes les plantes présentent la même forme, la même couleur et le même parfum, loin de vous sembler beau, il vous paraîtra plutôt triste et monotone. Le jardin qui réjouit les yeux et le cœur est celui où poussent côte à côte des fleurs de toutes couleurs, de toutes formes et de tout parfum. C'est cet heureux contraste de couleurs qui en fait le charme et la beauté. Il en est de même pour les arbres. Un verger rempli d'arbres fruitiers est un lieu de délices, de même qu'une plantation d'arbustes de toutes sortes. C'est précisément la diversité et la variété qui en font l'attrait. Chaque fleur, chaque arbre, chaque fruit, outre sa beauté particulière, fait ressortir les qualités des autres et souligne la grâce spéciale de chacun et de tous. Il devrait en être ainsi entre les enfants des hommes. Les différences au sein de la famille humaine devraient être la cause de l'amour et de l'harmonie. De même qu'en musique, l'accord parfait résulte de la résonance simultanée d'un grand nombre de notes différentes. Si vous vous trouvez avec des personnes d'autres races et d'autres couleurs, ne vous méfiez pas d'elles. Ne vous retranchez pas derrière le mur des conventions. Mais au contraire, montrez-vous heureux et témoignez-leur de la bonté. Considérez-les comme des roses de nuances diverses qui croissent dans le beau jardin de l'humanité, et réjouissez-vous d'être en leur compagnie. De même, ne vous détournez pas de ceux qui ont des opinions différentes des vôtres. Tous cherchent la vérité, et bien des chemins y conduisent. La vérité présente quantité d'aspects, mais elle demeure une, pour toujours et à jamais. Ne permettez pas aux divergences d'opinions ou aux différences de pensée de vous séparer de vos semblables ou de causer la discorde, d'introduire la haine et la dissension dans vos cœurs. Recherchez plutôt la vérité avec diligence et faites de tous les hommes vos amis. Tout édifice est composé de quantités de pierres différentes. Cependant, chacune dépend à tel point des autres que si on la déplaçait, toute la construction en serait endommagée. Si une pierre est imparfaite, la structure est défectueuse. Baha'u'llah a tracé le cercle de l'unité. Il a fait un plan pour unir tous les peuples et les rassembler à l'ombre de la tente de l'unité universelle. Ceci est l'œuvre de la bonté divine et nous devons nous efforcer de cœur et d'âme à réaliser cette unité parmi nous. Tandis que nous y travaillons, la force nous sera donnée. Abandonnez toute pensée égoïste et essayez seulement d'obéir et de vous soumettre à la volonté de Dieu. C'est seulement par ce moyen que nous deviendrons les citoyens du royaume de Dieu et que nous atteindrons à la vie éternelle. Chapitre 16. La véritable signification des prophéties relatives à la venue du Christ. La Bible contient des prophéties concernant la venue du Christ. Les Juifs attendent encore l'arrivée du Messie et prient Dieu nuit et jour de hâter son avènement. Quand vint le Christ, ils l'accusèrent et le firent périr en disant « Ce n'est pas celui que nous attendons. N'oublions pas qu'à la venue du Christ, des signes et des miracles témoigneront qu'en vérité il est le Christ. Nous connaissons ces signes et ces conditions et ils ne sont pas réalisés. Le Messie doit venir d'une ville inconnue. Il s'assoira sur le trône de David. Il brandira une épée d'acier et gouvernera avec un sceptre de fer. Il accomplira la loi des prophètes, fera la conquête de l'Orient et de l'Occident et glorifiera son peuple élu, les Juifs. Il amènera le règne de la paix dans le monde. Alors les animaux eux-mêmes cesseront d'être des ennemis pour l'homme, car il est dit que le loup et l'agneau se désaltéreront à la même source, que le lion et la chevrette coucheront dans le même pré, le serpent et la souris partageront le même nid et toutes les créatures de Dieu seront en repos. Selon les Juifs, Jésus n'a réalisé aucune de ces conditions, car leurs yeux étaient fermés, et ils ne pouvaient voir. Jésus venait de Nazareth, qui n'était pas une ville inconnue. Il n'avait pas d'épée à la main, ni même de bâton. Il n'était pas assis sur le trône de David. C'était un homme pauvre. Il réforma la loi de Moïse et abolit le jour du sabbat. Il ne conquit pas le monde du levant au couchant, mais fut lui-même soumis à la loi romaine. Il n'éleva pas le peuple juif, mais il enseigna l'égalité et la fraternité, et il blâma les scribes et les pharisiens. Il n'apporta pas le règne de la paix, car pendant sa vie, la justice et la cruauté furent telles qu'il en fut lui-même victime, et qu'il mourut d'une mort ignominieuse sur la croix. C'est ainsi que parlaient et pensaient les Juifs, car ils ne comprenaient ni les Écritures, ni les vérités glorieuses qu'elles contenaient. Ils en connaissaient la lettre par cœur, mais de leur esprit vivifiant, ils n'en comprenaient pas un mot. Écoutez-moi et je vous en donnerai la signification. Bien que venant de Nazareth, ville connue, le Christ venait aussi du ciel. Son corps était né de la Vierge Marie, mais son esprit venait de Dieu. L'épée qu'il portait était le glaive de sa parole, avec lequel il sépara le bien du mal, le vrai du faux, le fidèle de l'infidèle et la lumière des ténèbres. Sa parole fut vraiment une épée acérée. Le trône sur lequel il était assis est le trône éternel d'où il règne à jamais. C'est un trône céleste et non terrestre, car les choses de la terre passent, mais les choses du ciel restent. Il interpréta de nouveau et compléta la loi de Moïse, et il accomplit la loi des prophètes. Sa parole conquit l'Orient et l'Occident, et son royaume est éternel. Il éleva les Juifs qui le reconnurent. C'étaient des hommes et des femmes d'humble origine, mais la rencontre avec Jésus leur conféra la noblesse et la dignité éternelle. Les animaux qui devaient vivre ensemble représentent les différentes races et sectes qui, après s'être fait la guerre, devaient désormais vivre dans l'amour et la charité et boire ensemble l'eau de la vie provenant de cette source éternelle, le Christ. Toutes les prophéties spirituelles concernant la venue du Christ étaient donc bien accomplies. Mais les Juifs fermèrent les yeux pour ne pas voir et se bouchèrent les oreilles pour ne pas entendre. Ainsi, la divine réalité du Christ passa au milieu d'eux sans être ni entendu, ni reconnu, ni aimé. Il est facile de lire les Saintes Écritures, mais c'est uniquement avec un cœur pur et un esprit clair qu'on peut comprendre leur véritable signification. Demandons l'aide de Dieu afin d'être capable de comprendre les livres saints. Prions pour que les yeux voient, pour que les oreilles entendent, et pour les cœurs qui désirent ardemment la paix. La grâce éternelle de Dieu est incommensurable. De tout temps, il a choisi certaines âmes sur lesquelles il a répandu la divine bonté de son cœur, illuminant leur esprit de lumière céleste, leur révélant les mystères cachés, et présentant à leurs yeux, dans toute sa pureté, le miroir de vérité. Ce sont les disciples de Dieu, et sa bonté n'a pas de limite. Vous qui êtes les serviteurs du Très-Haut, vous pouvez aussi être des disciples. Les trésors de Dieu sont infinis. L'Esprit qui souffle à travers les Saintes Écritures est une nourriture pour tous ceux qui ont faim. Dieu, qui s'est révélé aux prophètes, donnera sûrement le pain quotidien ainsi qu'une part de ses richesses à tous ceux qui le lui demanderont avec constance. Chapitre 17. L'Esprit Saint, puissance intermédiaire entre Dieu et l'homme. La réalité divine est inconcevable, invisible, éternelle, immortelle et sans limite. Le monde de la création est borné, mortel et soumis aux lois de la nature. Pour cette infinie réalité, on ne peut parler de montée ni de descente. Elle dépasse l'entendement de l'homme et ne peut être décrite dans les termes qui s'appliquent aux phénomènes physiques du monde créé. Aussi, l'homme a-t-il grandement besoin du seul pouvoir qui lui permettent de recevoir l'assistance de la divine réalité, de l'unique pouvoir qui le mette en contact avec la source de toute vie. Un intermédiaire est indispensable pour relier deux extrêmes l'un à l'autre. Richesse et pauvreté, abondance et besoin étant opposés, n'auraient aucune relation sans pouvoir de liaison entre eux. C'est pourquoi on peut dire qu'il faut un médiateur entre Dieu et l'homme. Et celui-ci n'est autre que l'Esprit Saint qui met le monde créé en relation avec l'inconcevable, avec la divine réalité. On peut comparer la réalité divine au soleil et l'Esprit Saint aux rayons du soleil. De même que ces rayons répandent lumière et chaleur sur la terre, donnant la vie à toutes les créatures, ainsi les manifestations apportent la puissance de l'Esprit Saint émanée par le soleil divin de réalité et donnent lumière et vie aux âmes des hommes. Nota, les manifestations de Dieu ou messagers de Dieu. Vous voyez qu'un intermédiaire est nécessaire entre le soleil et la terre. Le soleil ne descend pas sur terre et la terre ne monte pas vers le soleil. Leur contact a lieu par les rayons solaires apportant la lumière et la chaleur. L'Esprit Saint est la lumière émise par le soleil de vérité. Par sa puissance infinie, il vivifie et illumine toute l'humanité, inondant toutes les âmes de son divin rayonnement et transmettant au monde entier les bienfaits de la miséricorde de Dieu. Sans l'action de la chaleur et de la lumière, des rayons solaires, la terre ne profiterait pas du soleil. De même, l'Esprit Saint est la cause réelle de la vie humaine. Sans lui, l'homme serait privé d'intelligence et serait incapable d'acquérir les connaissances scientifiques auxquelles il doit toute son influence sur le reste de la création. L'illumination par l'Esprit Saint donne à l'homme le pouvoir de la pensée et lui permet de faire les découvertes par lesquelles il infléchit les lois de la nature selon sa volonté. Par l'intermédiaire des prophètes de Dieu, c'est l'Esprit Saint qui enseigne les vertus spirituelles à l'homme et lui permet d'atteindre à la vie éternelle. Toutes ces bénédictions, l'homme les doit à l'Esprit Saint. Nous pouvons donc comprendre que l'Esprit Saint est l'intermédiaire entre le Créateur et la création. La lumière et la chaleur du soleil rendent la terre fertile et donnent la vie à tout ce qui croit. L'Esprit Saint vivifie les âmes des hommes. Les deux grands apôtres, saint Pierre et saint Jean, étaient d'humbles et simples travailleurs, peinant pour gagner leur pain quotidien. Par le pouvoir de l'Esprit Saint, leur âme fut illuminée et ils reçurent les bénédictions éternelles du Seigneur Jésus-Christ. Chapitre 18. Les deux natures de l'homme. C'est aujourd'hui un jour de fête à Paris. On célèbre la fête de tous les saints. Pourquoi, croyez-vous, a-t-on donné à certaines personnes le titre de saint? Ce mot a une signification littérale précise. Un saint est celui qui mène une vie de pureté, qui s'est libéré de toute faiblesse et imperfections humaines. L'homme possède deux natures, sa nature élevée ou spirituelle et sa nature inférieure ou matérielle. Par l'une, il approche de Dieu, par l'autre, il vit uniquement pour le monde. On peut trouver les caractéristiques de ces deux natures dans l'homme. Par son côté matériel, il se révèle menteur, cruel et injuste, tous ses traits provenant de sa nature inférieure. Les attributs de sa nature divine se manifestent par l'amour, la pitié, la bonté, la vérité, la justice, chacun d'eux et tous étant l'expression de sa nature élevée. Toutes les bonnes habitudes, toutes les nobles qualités appartiennent à la nature spirituelle de l'homme, alors que toutes ses imperfections et ses mauvaises actions proviennent de sa nature matérielle. Si la nature divine d'un homme domine sa nature humaine, il devient un saint. L'homme est à même de faire le bien ou le mal. Si ses tendances vers le bien prédominent, et s'il maîtrise ses mauvaises inclinations, alors on peut vraiment dire qu'il est un saint. Si, au contraire, il rejette les principes de Dieu et se livre à ses passions perverses, alors il ne dépasse pas l'état de pure animalité. Les saints sont des hommes qui ont su s'affranchir du monde matériel et qui ont triomphé du péché. Ils vivent sur la terre, mais ne lui appartiennent pas. Leurs pensées évoluant sans cesse dans le monde spirituel. Leur vie s'écoule dans la sainteté et leurs actions manifestent l'amour, la justice et la piété. Recevant la lumière divine, ils sont comme des lampes brillantes qui éclairent les lieux obscurs de la terre. Ceux-là sont les saints de Dieu. Les apôtres qui furent les disciples de Jésus-Christ étaient des hommes semblables aux autres. Comme eux, ils étaient attirés vers les choses de la terre et chacun d'eux ne pensait qu'à ses propres intérêts. Leur connaissance sur la justice était réduite, et ils étaient dépourvus des perfections divines. Mais quand ils crurent au Christ et le suivirent, leur ignorance fit place à la connaissance, la cruauté se transforma en justice, le mensonge en vérité et l'obscurité en lumière. Ils avaient été des hommes de ce monde, ils devinrent des êtres spirituels et divins. D'abord enfants des ténèbres, ils devinrent des fils de Dieu, des saints. Efforcez-vous donc de suivre leurs traces, abandonnant tout ce qui appartient à la terre pour tâcher d'atteindre au royaume spirituel. Priez Dieu pour qu'il fortifie en vous les vertus divines, afin que vous puissiez être comme des anges sur la terre et des phares lumineux qui révéleront les mystères du royaume aux esprits doués d'entendement. Dieu a envoyé ses prophètes aux hommes pour les éduquer, les éclairer et leur expliquer le mystère du pouvoir de l'Esprit-Saint, leur permettant ainsi de réfléchir la lumière et d'être capables à leur tour de guider les autres. Les livres divins, la Bible, le Coran et les autres écritures sacrées ont été donnés par Dieu pour nous guider dans les voies de la vertu divine, de l'amour, de la justice et de la paix. C'est pourquoi je vous dis, tâchez de suivre les prescriptions de ces livres bénis et d'organiser votre vie de telle sorte que, suivant ces exemples, vous deveniez vous-même les saints du Très-Haut. Chapitre 19. Progrès matériel et progrès spirituel. Comme le temps est beau aujourd'hui, le ciel clair et le soleil resplendissant. Le cœur de l'homme en est réjoui. Un temps si beau et si radieux renouvelle la vie et la force de l'homme. Et s'il est malade, son cœur éprouve une fois de plus le joyeux espoir de recouvrer la santé. Tous ces dons de la nature concernent le côté physique de l'homme, car seul son corps peut recevoir les bienfaits matériels. Quand un homme réussit dans ses affaires, son art ou sa profession, il peut dès lors améliorer son bien-être matériel et s'accorder les facilités et le confort dans lesquels il se complaît. De nos jours, nous voyons partout l'homme s'entourer de luxe et de tout le confort moderne et de ne rien refuser à sa nature physique. Mais prenez garde d'oublier la vie de l'âme en vous préoccupant par trop des questions corporelles, car les avantages matériels n'élèvent pas l'esprit d'un homme. La perfection dans ce domaine procure un plaisir physique sans aucune gloire pour l'âme. Il se peut qu'un homme soit comblé par la fortune, qu'il vive au sein du plus grand confort de la civilisation moderne et qu'il soit dénué du précieux bienfait de l'Esprit-Saint. Il est bon et louable de progresser au point de vue matériel, mais en même temps, il ne faut pas négliger le progrès spirituel bien plus important et fermer les yeux à la lumière divine qui brille au milieu de nous. C'est seulement en nous perfectionnant spirituellement, autant que matériellement, que nous pouvons faire de réels progrès et devenir des êtres parfaits. C'est dans le but d'apporter cette lumière et cette vie spirituelle au monde que sont venus tous les grands éducateurs. C'est pour que le soleil de vérité soit manifesté et qu'il éclaire le cœur des hommes, afin qu'à travers son merveilleux pouvoir, ils atteignent la lumière éternelle. Quand vint le Christ, il répandit la lumière de l'Esprit-Saint tout autour de lui. Ses disciples et tous ceux qui reçurent son illumination devinrent des êtres spirituels et éclairés. C'est pour manifester cette lumière que naquit Baha'u'llah et qu'il vint dans le monde. Il enseigna aux hommes l'éternelle vérité et répandit les rayons de la lumière divine dans tous les pays. Hélas, voyez comme les hommes ont méconnu cette lumière. Ils poursuivent leur voie dans les ténèbres, la désunion et les querelles. Et les guerres cruelles continuent encore à sévir. Ils se servent des progrès matériels pour satisfaire leurs passions guerrières. Et ils fabriquent du matériel de guerre et des engins de destruction pour tuer leurs frères. Quant à nous, efforçons-nous plutôt d'obtenir les bienfaits spirituels, car c'est la seule voie du progrès réel, le seul qui vienne de Dieu. Je prie pour que chacun et tous vous puissiez recevoir les grâces de l'Esprit-Saint. Vous serez ainsi véritablement éclairés. Ainsi vous progresserez toujours plus loin et plus haut vers le royaume de Dieu. Alors vos cœurs seront prêts à recevoir la bonne nouvelle. Vos yeux seront dessillés et vous verrez la gloire de Dieu. Vos oreilles seront plus sensibles, vous entendrez l'appel du royaume et vos paroles deviendront éloquentes pour inviter les hommes à concevoir la puissance divine et l'amour de Dieu. Chapitre 20. Évolution de la matière et développement de l'âme. Il commence à faire très froid à Paris, si froid que je serai bientôt obligé de partir. Mais la chaleur de votre amour me retient encore ici. Si Dieu le veut, j'espère rester encore un peu avec vous. Le froid et la chaleur du corps ne peuvent affecter l'esprit, car celui-ci est embrasé par le feu de l'amour de Dieu. Quand nous comprenons ceci, nous commençons à concevoir quelque chose de notre vie dans le monde à venir. Dans sa bonté, Dieu nous a donné ici-bas un avant-goût ainsi que certaines preuves de la différence qui existe entre le corps, l'âme et l'esprit. Nous voyons que le froid, la chaleur, la souffrance, etc. concernent seulement le corps et n'affectent pas l'esprit. Il est fréquent de voir des hommes pauvres, malades, vêtus, misérablement et sans ressources, mais spirituellement forts. Quelle que soit leur souffrance corporelle, leur esprit est libre et en bonne condition. De même, combien de fois ne voyons-nous pas des hommes riches, physiquement forts et en bonne santé, mais dont l'âme est triste à mourir? Il est tout à fait évident à l'intelligence lucide que l'esprit de l'homme est très différent de son corps physique. L'esprit est inaltérable et indestructible. Les progrès et le développement de l'âme, sa joie et sa tristesse, sont indépendants du corps. Si un ami nous cause du plaisir ou de la peine, si une affection est sincère ou feinte, c'est l'âme qui en est affectée. Si ceux que nous aimons sont loin de nous, c'est l'âme qui souffre. Et les peines et les afflictions de l'âme peuvent agir sur le corps. Donc, lorsque l'esprit est nourri par de saintes vertus, le corps est satisfait. Si l'âme succombe au péché, le corps vit dans les affres du tourment. Quand nous rencontrons la vérité, la constance, la fidélité et l'amour, nous sommes heureux. Mais si nous sommes aux prises avec le mensonge, l'infidélité et la fausseté, nous sommes malheureux. Toutes ces considérations sont du domaine de l'âme et ne sont pas des maux corporels. Il est donc évident que l'âme, comme le corps, possède sa propre individualité. Mais si le corps subit une transformation, l'esprit n'en est pas nécessairement atteint. Si vous brisez une glace sur laquelle se reflète le soleil, la glace est cassée, mais le soleil brille toujours. Si la cage qui contient un oiseau est détruite, le petit oiseau reste indemne. Si une lampe est fêlée, la flamme peut continuer à brûler d'un vif éclat. Le même raisonnement s'applique à l'esprit de l'homme. Bien que la mort détruise son corps, elle n'a aucun pouvoir sur son esprit. Celui-ci est éternel, impérissable, à la fois sans commencement et sans fin. Quant à l'âme humaine, elle conservera, après la mort, l'état de pureté acquis pendant son évolution dans le corps physique. Et après sa séparation du corps, elle restera plongée dans l'océan de la miséricorde de Dieu. À partir du moment où l'âme quitte le corps pour atteindre le monde céleste, son évolution est spirituelle, et cette évolution-là, c'est l'approche de Dieu. Dans le monde physique, l'évolution consiste à passer d'un degré de perfection dans un autre. Le minéral passe dans le règne végétal avec ses perfections minérales. Le végétal passe dans le monde animal en conservant ses perfections, et de même dans le règne humain. Ce monde est plein d'apparentes contradictions. Chacun de ces royaumes, minéral, végétal et animal, possède la vie à un certain degré. Quoique, par comparaison avec l'homme, la terre paraisse morte, elle aussi cependant vit, d'une vie qui lui est propre. En ce monde, les choses vivent et meurent, puis revivent sous d'autres formes, mais dans le monde de l'esprit, il en est tout autrement. L'âme n'évolue pas graduellement, selon une loi. Elle évolue seulement pour s'approcher de Dieu, et par l'effet de sa miséricorde et de sa bonté. C'est mon ardente prière que nous puissions tous accéder au royaume de Dieu et près de lui. Chapitre 21. Réunion spirituelle à Paris. Dans toute l'Europe, on entend parler aujourd'hui de la fondation de sociétés, d'assemblées et de réunions de toutes sortes. Il y en a qui concernent le commerce, les sciences, la politique et bien d'autres encore. Ces sortes de réunions ont une utilité matérielle, leur but étant le progrès et le développement du monde de la matière. Mais il est rare qu'un souffle spirituel vienne les animer. Elles paraissent inconscientes à la voix de Dieu et insouciantes en ce qui concerne les questions divines. Mais cette réunion, à Paris, est vraiment une réunion spirituelle. La brise divine souffle sur vous. La lumière du royaume brille dans tous les cœurs. L'amour de Dieu est une puissance parmi vous. Et d'une âme assoiffée, vous recevez le message du bonheur. D'un commun accord, vous vous êtes tous réunis ici, dans une attirance mutuelle du cœur et de l'âme, débordant de l'amour divin, vous aspirez et vous travaillez à l'unité du monde. Cette assemblée est véritablement une assemblée spirituelle. Elle est pareille à un beau jardin parfumé sur lequel le soleil céleste répand ses rayons d'or et dont la chaleur pénètre et réjouit tout cœur en attente. L'amour du Christ, qui est au-dessus de toute connaissance, est parmi vous. L'Esprit Saint est votre soutien. De jour en jour, cette assemblée s'agrandira et deviendra de plus en plus forte, jusqu'à ce que son esprit conquière le monde entier. Efforcez-vous de tout cœur d'être les intermédiaires empressés de la bonté de Dieu. Car je vous le dis, il vous a choisi pour être ses messagers d'amour dans le monde, pour être les dispensateurs de ses bienfaits spirituels, les propagateurs de l'unité et de la concorde sur la terre. Remerciez Dieu du fond du cœur qu'un tel privilège vous ait été donné, car ce n'est pas trop de toute une vie consacrée aux louanges de Dieu pour lui rendre grâce d'une telle faveur. Portez vos regards au-delà de l'époque actuelle et considérez l'avenir avec les yeux de la foi. Aujourd'hui, c'est le temps des semailles. Le grain tombe sur le sol, mais le jour viendra où s'élèvera un arbre splendide aux branches surchargées de fruits. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car ce jour commence à poindre. Tâchez d'en apprécier la puissance, car véritablement, c'est un jour merveilleux. Dieu vous a comblé d'honneur, et en votre cœur, il a déposé une radieuse étoile, dont, en vérité, la clarté illuminera le monde. Chapitre 22. Les deux sortes de lumière. Aujourd'hui, le temps est sombre et triste. En Orient, le soleil brille sans relâche. Jamais les étoiles ne sont voilées et il y a très peu de nuages. La lumière apparaît toujours dans l'Est et envoie son rayonnement vers l'Ouest. Il y a deux sortes de lumière. Celle du soleil est visible et nous permet de discerner les beautés du monde qui nous entoure. Sans elle, nous ne pourrions rien voir. Néanmoins, bien que la fonction de cette lumière soit de nous rendre toutes choses visibles, elle ne peut nous donner la faculté de voir ni de comprendre leurs différentes beautés, car cette lumière n'a ni intelligence ni conscience. C'est la lumière de l'intellect qui nous donne la connaissance et la compréhension, et sans elle, nos yeux physiques seraient inutiles. Cette lumière de l'intellect est la lumière suprême, car elle émane de la lumière divine. La lumière de l'intelligence nous permet de comprendre et de connaître tout ce qui existe. Mais seule la divine lumière peut nous donner la vision des choses invisibles et nous permettre d'entrevoir des vérités qui ne se révéleront au monde que dans plusieurs milliers d'années. C'est la lumière divine qui permit aux prophètes de voir à l'avance ce qui se passerait 2000 ans plus tard, et nous assistons aujourd'hui à l'accomplissement de leur vision. C'est donc cette lumière que nous devons chercher, car elle est supérieure à toute autre. C'est par cette lumière que Moïse fut à même de voir et de comprendre la divine apparition et d'entendre la céleste voix qui lui parlait depuis le buisson ardent. C'est de cette lumière que Mohammed parle quand il dit « Allah est la lumière des cieux et de la terre ». Voir Exode 3.2, Coran 24.35, la céleste voix qui lui parlait depuis le buisson ardent. Dieu est la lumière des cieux et de la terre. Recherchez cette lumière céleste de toutes vos forces, afin de parvenir à comprendre les réalités, à connaître les secrets de Dieu, et afin que les voies cachées vous apparaissent clairement. On peut comparer cette lumière à un miroir. De même qu'un miroir reflète tout ce qui est devant lui, ainsi cette lumière reflète à la vue de notre esprit tout ce qui existe dans le royaume de Dieu, et elle rend visible la réalité des choses. Grâce à cette lumière éclatante, toute l'interprétation spirituelle des Saintes Écritures s'est trouvée éclairée. Les choses cachées de l'univers de Dieu ont été manifestées, et nous avons pu comprendre quels sont les objectifs divins pour l'humanité. Je prie Dieu pour que, en sa miséricorde, il illumine vos cœurs et vos âmes de sa glorieuse lumière. Alors chacun de vous brillera comme une radieuse étoile dans les régions obscures du monde.